Chapitre 6. André de Valserre mourut une heure plus tard, sans avoir repris connaissance. Inès ne l'avait pas quitté. Agenouillée près du lit où l'avaient transporté les deux servantes, elle le regardait avec des yeux désespérés en se tordant les mains. Et de temps à autre, penchée vers l'oreille du mourant, elle murmurait d'une voix brisée « Je ne savais pas, mon André, pardonne-moi. » L'entendit-il ? La comprit-il ? Dieu seul le sut, car aucun signe extérieur ne l'apprit à celle qui implorait ainsi le pardon de sa faute. Prévenus par Augustine, deux des meilleurs camarades du défunt et la femme du lieutenant de vaisseau, une des plus intimes relations de Madame de Valserre, étaient accourus près du lit mortuaire. Madame Sanson emmena presque de force Inès, qui, raidie et glacée, refusait de quitter la chambre, et la fit coucher dans une pièce voisine. Mais à peine au lit, la jeune femme eut une terrible crise de nerfs, après quoi elle tomba dans une torpeur dont seule l'attira l'apparition de sa sœur, qui, prévenue par dépêche, arrivait avec M. Mulbach pour conduire le deuil et assister la veuve. Quand Pépita parut au seuil de la chambre, Inès, qui jusqu'alors ne prononçait pas une parole, se souleva sur son lit, le bras tendu, les yeux pleins d'horreur. « Toi, toi ! Non, va-t'en, va-t'en ! Je ne veux plus te voir maintenant !» Pépita s'avançait pourtant, l'air ému, compatissant. « Voyons, ma petite Inès, tais-toi, va-t'en ! Tu m'as aidé à le tuer, mon André, mon pauvre André. Tu m'as trompé. Les plans, c'était pour l'Allemagne, et il m'a maudite. Il m'a... » Un sanglot l'étouffa. Pépita, un moment, resta immobile, visiblement troublée. Puis, reprenant sa présence d'esprit, elle voulut saisir la main d'Inès, mais la jeune femme la retira brusquement. « Laisse-moi, je te déteste, laisse-moi !» Et elle retomba sur le lit, en proie à une nouvelle crise de nerfs. Pépita, jugeant sa présence défavorable pour le moment, se retira et envoya Augustine près de sa sœur. Puis elle rejoignit son mari dans le salon, où, en compagnie des amis du défunt, il recevait les invités venus pour les obsèques. Au retour de celle-ci, les deux époux eurent un long entretien, qu'Otto conclut par ces mots. « Il a joliment bien fait de mourir, ce Valserre, car, vois-tu, Pépita, il aurait été capable de nous faire des ennuis. Ce n'est pas que je craigne quelque chose, car j'ai pris toutes mes précautions, mais il est toujours désagréable qu'on vous cherche noise à propos de ces sujets-là. Tandis que maintenant tout est liquidé. Inès peut faire la sotte, nous n'en avons cure. D'ailleurs, nous la tiendrons par le besoin qu'elle aura de notre aide pécuniaire. » Pépita, ce jour-là, n'essaya pas de revoir sa sœur, très abattue, disait la nourrice, après cette nouvelle crise. Mais le lendemain, elle entra chez elle, tenant par la main Florita, dont le petit visage portait la trace des larmes versées depuis que la tante et Augustine, répondant à ses questions anxieuses au sujet de papa qu'elle ne voyait pas, lui avait dit que le cher papa était au ciel avec les anges. La jeune femme, faible et fiévreuse, eut encore un geste qui repoussait Madame Mulbach. Mais Pépita poussa vers le lit la petite fille, en disant doucement « Va, mignonne, va embrasser ta petite maman. » Puis, quand les bras de la jeune femme se furent refermés autour des épaules de l'enfant, Madame Mulbach s'assit au pied du lit et dit paisiblement « Otto m'autorise à rester près de toi quelques semaines, ma petite Inès. Je te supplierai le mieux possible pour toutes les dispositions à prendre. Et puis, quand tu iras un peu mieux, nous verrons ensemble ce qu'il convient de décider. » Inès ne parut pas entendre. Elle posait sur les cheveux de l'enfant ses lèvres brûlantes et serrait contre elle la petite qui, un peu saisie, regardait avec une surprise inquiète le joli visage empourpré par la fièvre, les yeux brillants, pleins de larmes. Ce silence, la jeune femme le conserva presque constamment, les jours suivants, à l'égard de sa sœur. Quand Pépita lui adressait une question, elle répondait « oui, non » ou même par un simple signe de tête. Otto Mulbach était reparti sans avoir vu sa belle-sœur. Pépita le lui avait conseillé. En ce moment, elle est sous le coup d'une surexcitation excessive, mais elle s'apaisera vite. Une nature légère comme la sienne a tout fait d'oublier. Dans peu de temps, je l'amènerai à Barcelone, d'où nous repartirons tous ensemble pour nous installer à Paris. Oui, c'est cela, ma chère amie. Ne la laisse pas seule ici, même pour peu de jours. Elle pourrait avoir l'idée de faire quelque confidence à une amie. On ne sait jamais avec ces petites femmes sans cervelle. Tâche de reprendre ton influence sur elle, Pépita, car il ne faudrait pas qu'elle nous cause d'ennui. Mais Inès gardait obstinément son attitude hostile à l'égard de sa sœur. Trop faible pour s'occuper de quoi que ce soit, n'ayant pas le ressort moral nécessaire pour dominer quelque peu cette faiblesse, elle laissait Pépita veiller à tout et restait assise dans sa chambre, inactive, le regard vague ou douloureux, n'acceptant près d'elle que Florita et refusant de recevoir celle qu'elle avait appelée ses amies. En caressant les cheveux de l'enfant, elle murmurait « C'est fini, fini. Je ne m'amuserai plus, maintenant. Je suis veuve, veuve pour la vie. » Un après-midi, Pépita, que cette attitude impatientait secrètement de plus en plus, vint s'asseoir près d'elle et dit avec autorité « Voyons, Inès, il faut que nous causions un peu sérieusement. Je comprends ton chagrin, mais pense à ta fille, à la situation qui se trouve être la tienne maintenant. » Madame de Valserres demanda brièvement, sans regarder sa sœur. « Quelle est-elle ? Eh bien, ta dot diminuée de moitié, plus ta pension de veuve d'un lieutenant de vaisseau. Je ne parle que pour mémoire de cette vieille maison bretonne qui est à peu près le seul héritage de Florita du côté paternel. Le mieux sera de la vendre. La somme qu'on en retirera pourrait être placée de façon à fournir à l'enfant une petite dot plus tard. » Inès dit de la même voix brève, « Non, elle ne sera pas vendue. C'est là que j'irai habiter maintenant. » Pendant quelques instants, Pépita resta muette de stupéfaction. Puis elle s'écria, « Qu'est-ce que cette idée, ce nouveau caprice? Tu n'as même pas pu y demeurer 3 jours avec ce pauvre André autrefois, et tu voudrais? Ce n'est pas la même chose. Maintenant, je veux aller mourir dans cette maison qu'il aimait. Et il n'allait jamais à cause de moi. Voyons, es-tu folle, Inès? Que parles-tu de mourir? Tu vas te remettre de cette secousse, très vite, j'en suis sûre. Mais ce n'est pas à Kerhéven, tel que tu me l'as dépeint, qu'un tel résultat serait obtenu. Non, mon enfant, tu viendras avec moi à Barcelone, où Otto nous attend, ainsi que Florita. Nous y resterons encore 1 mois. Le temps que mon mari mette bien au courant l'acheteur de sa maison de commerce. Après quoi, nous irons nous installer à Paris, où le frère d'Otto nous a déjà retenu un appartement. » Inès l'interrompit sèchement. « C'est inutile, ma décision est prise. Jamais je n'habiterai avec vous, avec ton mari, cet Allemand. J'irai à Kerhéven, où je vivrai à très peu de frais. Plus tard, quand Florita aura 10 ou 12 ans, si je vis encore, j'aviserai alors. » L'insistance de Pépita se brisa contre cette résolution tenace qui la stupéfiait, et il lui fallut bien reconnaître, en cette occurrence, que son influence sur sa jeune sœur n'existait plus. Elle en éprouva un vif dépit, et dès le soir même, elle écrivit à Otto le résultat de son entretien avec Inès. Il lui répondit par courrier, « Ne cherche pas davantage à la convaincre, ma chère amie. Cette lubie peut au contraire nous servir beaucoup, car elle nous donnera entrée à Kerhéven, sur lequel, ainsi que je te l'ai laissé entendre, j'ai des vues particulières. En admettant qu'elle refuse de me recevoir, toi tu iras la voir, et tu pourras peu à peu compléter les renseignements fournis par ce pauvre Oscar, dont Ulrich m'a remis les intéressantes notes. Puis, s'il était nécessaire, tu arriverais bien à m'introduire dans la place. Il y a en outre la petite cousine exilée là-bas, qui ne sera pas fâchée de te voir. En un mot, céder sans discussion à cette fantaisie d'Inès ne présente aucun inconvénient, au contraire. D'ailleurs, elle en aura vite assez, peut-être trop vite, pour nos petites affaires. Si elle est gênée pour la question d'argent, sois large, discrètement. Il y a là un bon moyen de tenir une femme qui a toujours dépensé beaucoup plus que son revenu. Elle continuera encore, certainement. Et l'aide de la bonne sœur Pépita ne sera pas refusée, sois-en convaincue. On oubliera vite qu'on s'est laissé duper comme une petite sotte en vendant ses précieux plans au vieux pacifiste argentin. Et puis, tu verras, dans peu de temps, elle convolera de nouveau la charmante Inès. Elle s'empressera de ne plus penser à ce fâcheux épisode de sa vie, ni à ce Valser qui a eu la malencontreuse idée de tout deviner. Comment cela s'est-il produit? Elle ne te l'a pas dit, et sans doute ne te le dira jamais. Probablement quelque maladresse de sa part. Enfin, tout cela n'a plus d'importance, puisque ce pauvre Valser n'existe plus. Donc laisse faire ta sœur, chère Pépita. Aide-la pour son installation là-bas. Tâche de te rendre indispensable, afin que tu manques, après ton départ, et qu'on t'accueille convenablement quand tu reviendras. » Ces judicieux conseils d'Otto Mühlbach furent ponctuellement suivis par sa femme. Pépita apprit à sa sœur qu'après réflexion, elle trouvait très raisonnable son idée au sujet de Kerhaven, et elle ajouta qu'elle l'aiderait de tout son pouvoir pour le déménagement et l'installation là-bas. Inès la laissa dire et faire, passivement. De tout temps, elle avait été incapable de s'occuper de ces détails, dont son mari assumait la charge quand il quittait un logis pour un autre. Ce n'était pas maintenant, dans l'état de faiblesse physique et de lassitude morale où elle se trouvait, qu'elle eût pu changer d'habitude, diriger, prévoir, surveiller, ainsi qu'il le fallait en la circonstance. Pépita le savait bien. Inès avait besoin d'elle, comme le disait Otto, et elle en aurait besoin toujours. Madame Mühlbach s'arrangeait d'ailleurs pour qu'il en fût ainsi, comme le lui recommandait son mari. Dans les premiers jours d'août, la jeune veuve arrivait à Kerhaven et s'y installait avec Florita et l'ex-nourrice, qui demeurait comme unique servante. Pépita accompagnait sa sœur. Elle voulait l'installer elle-même, rester là une dizaine de jours, avant de rejoindre son mari. Inès ne s'y opposa pas. Tout semblait lui être indifférent, et, chose étrange, qui inquiétait son aîné plus que tout, jusqu'à la toilette même. Elle avait adopté un deuil très simple, très sévère, qui faisait paraître plus menu et plus pâle son visage altéré, où les yeux, maintenant, semblaient trop grands. Presque constamment, elle gardait le silence, avec un air absorbé qui faisait dire à Augustine « La pauvre madame cause avec l'âme de monsieur ». Ce changement de sa sœur était fort désagréable à Pépita. Otto avait réussi à lui fausser complètement la conscience, à la détacher de son pays même pour en faire une pan-germaniste presque aussi fanatique que lui. Mais elle n'avait pas encore le cœur endurci et elle aimait sincèrement sa cadette, à laquelle, vu la différence d'âge, elle avait servi de mère. Cette muette souffrance dont elle était la cause, cette rancune silencieuse qui ne désarmait pas, lui procurait une sorte de vague remords, fortement mêlée d'impatience irritée, qu'elle contenait avec peine devant Inès. Puis cette petite Florita, qu'elle câlinait tant, ne s'avisait-elle pas maintenant de s'écarter d'elle? L'enfant, intelligente et sensible, avait dû s'apercevoir de l'attitude d'Inès à l'égard de sa tante. Et dans son affection passionnée pour sa mère, elle pensait probablement que cette belle tante Pépita s'était montrée méchante pour la chère maman, si triste toujours. Cependant, Pépita, cachant sa contrariété, s'occupait avec zèle de l'installation. Une partie des meubles avait été vendue à Brest. Le reste trouvait largement place dans les grandes pièces de Kerhaven, où Inès errait avec des airs d'âme en peine. Madame Mühlbach lui demandait « Crois-tu pouvoir t'habituer ici, ma chère enfant ?» La jeune femme répondait avec ce regard absent qu'elle avait presque constamment. « Je ne m'habituerai nulle part, maintenant. Mais ici, je sens qu'il est là. » Pépita songeait avec inquiétude. « Je crains que le cerveau soit atteint, car ce n'est pas naturel, ce chagrin, vu le caractère d'Inès. Vraiment, je m'en irais très ennuyée de la laisser seule avec Augustine. » Dans ce lieu isolé, sauvage. Si au moins elle avait pu avoir quelques relations. Mais d'autre part, je crois que cela ne plairait guère à Otto. Il faudra que je lui en parle. S'il n'y trouve pas d'inconvénient, peut-être, par Hilda, pourrais-je voir à mettre Inès en rapport avec la châtelaine de Runesto, dont son mari était le petit cousin. Vers cette même époque, les vacances ramenaient au château Alain et Maurice, ainsi que la petite protégée de la marquise. Durant les 3 mois qu'Elsa Hoffel venait de passer à la pension Marché, elle s'était acquis toutes les sympathies de la directrice et de la plupart de ses compagnes. Très appliquée au travail, elle se montrait en outre toujours docile, aimable, empressée à rendre service. D'elle-même, elle avait demandé à être instruite dans la religion catholique, et elle apportait dans cette étude le même zèle qu'en toute autre chose. Travail parfait, conduite excellente, caractère charmant, disait le bulletin, envoyé par la directrice à Madame de Pinvalas. La marquise la montra à son petit-fils, que, vu son caractère sérieux et son esprit de décision, elle traitait un peu en chef de famille, depuis qu'il avait atteint ses 16 ans. Alain concéda, « Oui, c'est très bien. Si elle continue, vous n'aurez pas à vous repentir de cette bonne œuvre, grand-mère. Et moi, peut-être, à la longue, m'habituerai-je à cette physionomie. Comme il est singulier que tu aies contre elle cette sorte d'antipathie, mon enfant. Antipathie n'est pas le mot, grand-mère, non. Mais il y a chez elle quelque chose que je ne puis définir et qui me déplaît. Enfin, nous verrons. En la connaissant mieux, je changerai probablement d'avis. » Cet entretien avait lieu dans la chambre de la marquise, 4 jours après l'arrivée des jeunes gens et 8 jours après celle des nouvelles habitantes de Kerhéven. C'était un dimanche matin. Madame de Pinvalas était toute prête pour partir à la grand-messe avec ses petits-enfants, l'institutrice et Elsa, qui trouvait place aussi dans le grand landau familial. La petite fille était vêtue d'un costume noir, simple, mais bien fait. Elle gardait un air modeste et discret, qui plaisait fort à Madame de Pinvalas. Et à l'église, son attitude recueillie fut remarquée de l'assistance. Les fidèles, ce matin-là, eurent aussi un motif de distraction par la présence d'une des dames de Kerhéven, qui assistait à la messe, en compagnie d'une jolie petite fille blonde, habillée d'une robe blanche, avec une grande ceinture noire. C'était Pépita, qui, fort peu dévote à l'ordinaire, avait aujourd'hui un motif particulier pour assister à la grand-messe dominicale. De l'endroit où elle s'était placée, la jeune femme voyait le banc des châtelaines dans lequel avait pris place aussi Elsa Hoffel. Son regard, après avoir examiné la marquise, Armelle, Miss Juxton, les 2 adolescents, s'arrêtait longuement sur la petite silhouette vêtue de deuil, sur le visage dont la blancheur tranchait sur tout ce noir. Et Madame Bunbar songeait. C'est elle, c'est Hilda. Quand, la messe terminée, l'affluence des fidèles se porta vers la sortie, Pépita se glissa, tenant Florita par la main, sur le passage des châtelaines. Elle heurta Elsa, comme par mégarde, et dit en allemand à mi-voix, « Oh, pardon, mademoiselle !» Elsa eut un mouvement de surprise, leva les yeux, et rencontra l'expressif regard de Madame Mulbar. Celle-ci chuchota, « Demain, à la pointe de Kerhéven, 10 ou 11 heures. » Elsa fit signe qu'elle avait compris, puis continua de suivre les Pinvalas, qui, pas plus que personne, ne s'étaient aperçus de cet incident. Pépita et l'enfant, en sortant, passèrent devant les châtelains un instant arrêtés sur la petite place près de leur voiture. Florita, qu'intéressaient beaucoup ces paysages nouveaux et ces figures inconnues, sourit gentiment à Madame de Pinvalas et à son petit-fils, qui la regardaient et lui sourirent à leur tour. La marquise fit observer. « Quelle délicieuse petite fille !» Alain approuva. « Délicieuse ! Elle a de merveilleux yeux noirs et ses belles boucles blondes. Je n'ai jamais vu si jolie enfant. Ce doit être la fille de ce pauvre commandant de Valserre, mort subitement à Brest, où il se trouvait en convalescence. Oui, et Kerhéven est habité maintenant par sa veuve, m'avez-vous dit. En effet, sa veuve et sa petite fille. Il y a aussi, paraît-il, en ce moment, la sœur de cette jeune femme, une Madame Mulbar, venue pour l'installer ici. Je pense que c'est elle qui accompagne l'enfant, car on dit Madame de Valserre malade. Personne ne l'a vue encore. Pauvre femme! Si je savais être accueillie par elle et pouvoir lui être utile, j'oublierais bien volontiers cette brouille survenue jadis entre 2 cousins et dont le motif fut la possession de Kerhéven. Alain dit avec un sourire attendri, « Chère grand-mère, vous êtes toujours si bonne. Je suis bien certain que vous trouverez le moyen de rendre service à cette jeune femme si elle est malheureuse. » Elsa, tout en regardant vers la direction opposée, avait entendu cet échange de paroles. Au nom de Madame Mulbach, son visage eut un tressaillement léger. Puis, un sourire de satisfaction glissa entre ses lèvres, qu'elle avait longues et d'un beau rose vif. Demain matin, vers 10 ou 11 heures. Ah oui, elle serait exacte au rendez-vous.